Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous continuons aujourd'hui une série de discussions sur la croissance spirituelle du chrétien. Et la parabole bien connue du semeur nous servira de référence.
À présent, Sandra va lire cette parabole qui raconte une histoire courte illustrant des vérités spirituelles fort importantes. Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9.
Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit : Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
Nous sommes contents d'accueillir Étienne sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Il va nous aider à comprendre le sens de cette parabole. Bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons considéré la semence tombée dans le sol rocailleux. Et nous avons compris qu'elle représente ceux et celles qui ne font pas l'effort de renouveler leur force en l'Éternel en lisant la Bible ou en écoutant l'enseignement de Dieu. Ainsi, quand l'épreuve les frappe, ils ne parviennent pas à croître spirituellement.
Oui, et aujourd'hui, nous allons parler des graines tombées parmi les ronces.
Et Jésus, me semble-t-il, donna à ses disciples la signification de cette illustration.
C'est exact, Yann. Je vais la lire tout de suite. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Si la dernière fois nous avons vu que la souffrance peut ralentir notre croissance spirituelle, aujourd'hui nous constatons que le monde, avec ses attraits, peut également exercer une telle action.
Comment définir le monde et en quoi représente-t-il un danger pour nous?
Lorsque la Bible utilise le mot « monde », elle évoque surtout les idées et les influences présentes dans notre société qui s'opposent à l'Éternel. Si donc nous tombons sous l'influence du monde, en devenant imprégnés de ses idées, notre croissance spirituelle en sera entravée et imperceptiblement nous nous éloignerons de l'Éternel. Or, dans la mesure où nous nous conformons au monde, nous nous opposons à l'Éternel et nous l'empêchons d'accomplir son œuvre dans nos vies.
Nous comprenons la gravité de cet enjeu spirituel, mais pouvez-vous nous donner quelques exemples ? Nous montrons la manière dont le monde peut avoir une influence néfaste sur nous.
Jésus, dans le texte lu, en apporte un, l'attrait trompeur des richesses. Beaucoup croient que posséder des richesses et des biens matériels résoudra tous leurs problèmes et leur procurera la satisfaction et le bonheur. Cette pensée est très présente dans le monde et exerce une pression énorme sur le croyant. Jésus l'affirme, cette idée à première vue attrayante est trompeuse. Les richesses ne résolvent pas tous les problèmes et ne rendent pas forcément heureux. Les personnes qui sont trop fixées sur cet objectif ont tendance à exclure l'Éternel de leur vie et à négliger l'enseignement de la Bible. Elles manquent ainsi l'essentiel. Elles s'écartent de celui qui est la véritable source du bien-être, de celui qui apporte les solutions justes aux problèmes rencontrés. Par conséquent, elles dépérissent sur le plan spirituel.
Mais les richesses ne représentent pas la seule influence exercée par le monde, pouvant mettre notre croissance spirituelle en danger.
Non, il en existe d'autres. La poursuite acharnée du pouvoir, ou la réalisation d'une ambition quelconque, sans tenir compte de la volonté de Dieu, représentent d'autres exemples. De même, la poursuite de relations sexuelles en dehors du cadre du mariage peut sembler attrayante, mais combien elle est trompeuse et dangereuse. Dans certaines sociétés, les gens sont aussi encouragés à invoquer les esprits, à avoir recours à des pratiques superstitieuses pour résoudre leurs problèmes. À première vue encore, ces initiatives peuvent attirer et séduire, mais y recourir s'avère dangereux et détruit la croissance spirituelle.
Étienne, tous nous sommes plongés dans le monde, tous nous sommes exposés à la pression exercée par les médias, par nos familles, par nos amis. Et pourtant, certaines parviennent malgré tout à croître spirituellement, alors que d'autres dépérissent sur ce plan. Pourquoi ?
Nous avons déjà un peu abordé ce problème la dernière fois en parlant des épreuves. Je répète que notre croissance spirituelle dépend de notre attitude envers la parole de Dieu, la Bible. Il est vrai que le monde crie dans nos oreilles ce qu'il veut que nous fassions, et nous sommes placés devant un choix, l'écouter ou non. Il est vrai que la pression exercée par le monde est considérable, puissante, mais nous pouvons refuser d'y céder. Et d'autant plus que nous avons la possibilité de nous tourner vers l'Éternel pour puiser en lui la force nécessaire afin de résister aux tentations qui nous assaillent. Nous pouvons résumer la situation en une seule question. À qui allons-nous prêter l'oreille ? À l'Éternel ou bien au monde ?
Mais l'écoute de l'enseignement de la Bible nous représente qu'un premier pas à faire, me semble-t-il.
Vous avez raison, Yann. Si nous voulons résister à la pression du monde, il nous faut aller plus loin encore, car l'écoute de la parole est essentielle, mais elle ne suffit pas.
Quelle démarche proposez-vous alors pour nous permettre de porter du fruit dans ce monde difficile ?
À l'écoute de la parole de Dieu, nous devons répondre avec foi et mettre en pratique l'enseignement qu'elle dispense.
Parlez-nous d'abord de la foi.
La foi est la conviction, la confiance que ce que Dieu révèle dans la Bible est vrai et juste. Nous pouvons écouter l'enseignement de la Bible, mais si nous ne sommes pas persuadés de sa véracité et de son utilité, notre vie spirituelle ne progressera pas. La foi, c'est la conviction que ce que Dieu déclare dans sa parole est annoncé pour notre bien. À travers la Bible, Dieu parle. Il révèle sa sagesse, ses conseils. Il a nos meilleurs intérêts à cœur. Si nous choisissons d'écouter le monde, nous finirons mal. Nous finirons par gâcher nos vies et connaître la mort éternelle. Par contre, si nous écoutons Dieu, croyons à sa parole, nous vivrons avec lui. Nous bénéficierons de ses conseils et de sa sagesse et nous connaîtrons la vie éternelle.
Mais à cette foi, il faut ajouter l'obéissance à Dieu et la mise en pratique de sa parole.
En effet, l'obéissance est le résultat de notre confiance en Dieu. Si nous croyons fermement que nous soumettre à Dieu contribuera à notre bien, alors nous lui obéirons volontiers. Les exhortations de l'Éternel peuvent parfois paraître difficiles à mettre en pratique. Cependant, si nous avons confiance au Seigneur, nous nous soumettrons à sa parole. Et c'est ainsi que le monde n'étouffera pas notre croissance spirituelle.
Merci Étienne. Nous devons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais nous reviendrons sur ce point la prochaine fois.
Merci Yann, et au revoir à tous.
Le moment est venu d'introduire notre courte méditation biblique. Dans la série que nous poursuivons aujourd'hui, nous réfléchissons sur le sens des divers noms et titres attribués à Jésus.
Nicolas est de retour parmi nous et le titre qu'il va aborder aujourd'hui est « Le fils de David ». Que signifie donc ce titre ? Écoutons la suite de cette émission pour connaître la réponse.
Bonjour à tous. Nous allons commencer par écouter un récit biblique dans lequel Jésus est appelé « fils de David ». Cet extrait se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, versets 29 à 34.
Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils entendirent que Jésus passait par là, ils se mirent à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule les rabroua pour les faire taire, mais ils se mirent à crier de plus belle « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»« Seigneur, répondit-il, que nos yeux s'ouvrent !» Pris de pitié pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent.
David demeure le plus célèbre de tous les rois d'Israël. Il symbolisait aussi ce que son peuple attendait d'un bon roi. Malheureusement, après David, peu de rois justes et bons ont régné sur la nation d'Israël. La plupart se sont éloignés de Dieu pour sombrer dans l'idolâtrie, l'injustice et l'immoralité, entraînant leur peuple avec eux sur ce chemin de corruption. Quelques centaines d'années avant la venue de Jésus, l'Éternel avait livré cette nation aux mains d'envahisseurs cruels et il n'y a plus eu de roi en Israël. Cependant, les prophètes ont parlé de la part de Dieu pour annoncer qu'il enverrait un jour un nouveau roi, le roi par excellence, le roi sauveur. Certains ont même nommé ce roi sauveur promis le fils de David, car il ressemblerait à ce que fut ce roi idéal David, mais il dépasserait de loin sa renommée et sa réussite. Lorsqu'alors ces deux hommes aveugles, assis et mendiants au bord de la route, se mirent à crier « Fils de David, aie pitié de nous !» leur déclaration démontra la nature et la qualité de leur foi. Ces hommes crurent que Jésus était ce roi par excellence, ce roi sauveur promis par les prophètes. Ils ont cru que Jésus était de la lignée de David, que Jésus ressemblait à David, que Jésus accomplirait des exploits bien plus importants encore que ceux de David. Qu'attendaient-ils donc de Jésus? Nous n'en sommes pas totalement sûrs, mais Jésus leur a donné ce que David n'aurait jamais pu leur accorder. Jésus les a guéris, Jésus leur a rendu la vue. David a remporté de nombreuses victoires contre ses ennemis politiques et militaires, et lors de son règne, même s'il a par moments commis des erreurs, il a malgré tout recherché avec sincérité de cœur la justice. Toutefois, David ne pouvait rien contre la malédiction qui pèse sur les hommes. Il ne pouvait rien contre les forces déchaînées du péché, la puissance de la nature, le danger des maladies, le pouvoir de Satan et de la mort. Or voici nos véritables ennemis, bien plus redoutables que les hommes. Et ce sont ces ennemis-là que Jésus, le roi par excellence, le fils de David, est venu combattre. En guérissant les deux hommes aveugles, il montre son autorité. Il prouve son pouvoir sur le monde naturel. Il nous apprend que le jour viendra où il établira son règne éternel. Alors, toute maladie disparaîtra. Tout handicap sera anéanti. En mourant sur la croix, ce fils de David, ce roi sauveur par excellence, a remporté la victoire sur le péché, la victoire sur le diable et sur la mort. Une fois de plus, lorsqu'il reviendra instaurer son règne éternel, ces réalités désastreuses y seront absentes. Comment entrer dans cette espérance merveilleuse? Comment jouir du règne, de l'autorité et de la victoire du fils de David? Il suffit, tout comme l'ont fait ces deux hommes aveugles, de crier « Jésus, aie pitié de moi !» avec une foi sincère.
Merci Nicolas pour cette belle exhortation. Nous devons terminer notre émission à présent. Mais nous vous encourageons, chers amis auditeurs, à mettre votre foi en ce roi sauveur par excellence. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.